L'arrangeur.
A new stereophonic sound spectacular.
Quelqu'un qui fait un arrangement précisément. L'arrangeur, c'est l'arrangeur de grand orchestre. C'est peut-être ça qui a distordu un peu le mot. Hein.
Messieurs,
you got your first number one.
Vous tenez votre premier gros succès.
Culture, la série musicale, Zoé Sfez.
Bonjour et joie de vous retrouver en 2023 pour une émission toujours libre de toutes les provenances, de tous les récits. Une heure pour apprendre, comprendre modestement la musique, surtout en écouter, c'est la série musicale, bienvenue. Et pour ouvrir 2023, nouvel épisode de notre série Arrangeurs, les génies de l'ombre, consacrée à cette figure incomprise, mouvante, jamais autant célébrée qu'on l'aimerait, et pourtant essentielle de la musique, que nous écoutons, que nous aimons. Cet arrangeur qui n'est ni le compositeur, ni l'interprète, même s'il peut être évidemment les deux. Que fait-il exactement ? Dans notre premier épisode, on dressait le portrait des pionniers, les arrangeurs du jazz, qui ont véritablement inventé ce métier qui consiste à se saisir d'une mélodie, écrite ou pas d'ailleurs, pour l'arranger, c'est-à-dire la mettre en scène, l'orchestrer, lui donner sa forme, sa texture finale. Travail précieux, travail critique, aussi crucial qu'il est difficile à identifier et donc à définir et donc à reconnaître. Travail encore plus crucial, mais parfois encore plus invisible alors que s'annonce l'âge d'or de la musique en studio. À la fin des années 50 et jusqu'au début des années 90 vont s'imposer des chefs-d'œuvre bâtis dans cette cabine, travail d'orfèvrerie, travail industriel aussi, destiné à créer des produits musicaux pensés au millimètre près. Plus encore avec le concept d'album qui s'impose, c'est là que l'arrangement prend toute sa dimension, mais que l'arrangeur, lui, paradoxalement, se perd. Car, on le dit, il n'y a plus désormais que le compositeur et l'interprète, mais il y a aussi le producteur. Souvent, eux, ce sont les stars de cet âge d'or, l'ingénieur du son, et puis, trop oublié, le musicien de studio, qui tous peuvent être parfois des arrangeurs. Galerie de portraits, évidemment, subjective, non exhaustive, mais on l'espère, éclairante, dans la série musicale, de ces orfèvres de l'arrangement en studio. Thank you. The Gypsies, l'orchestre de Dizzy Gillespie est à Juan-les-Pins. Il fait beau, il fait chaud sur la Riviera française où ce disque est enregistré sous l'injonction d'un homme qu'on ne peut pas ne pas évoquer quand on se penche sur les arrangeurs, a fortiori sur les arrangeurs de génie en studio, ceux qui à la fois ont bousculé le genre et se sont offert la première place. Un homme qui a fait tant de choses dans sa vie qu'on pourrait lui consacrer des heures et des heures d'émission, d'ailleurs plusieurs l'ont fait. Il a milité aux côtés de Martin Luther King, il a composé pour Barbara Streisand, pour le cinéma, il connaît tout Hollywood, il a gagné 27 Grammy Awards, plusieurs Oscars de la musique, lancé toute une foule de grandes stars. Il est encensé comme musicien, comme compositeur évidemment, comme producteur. Mais cet homme, pour lui, tout a commencé avec l'arrangement. Et si on devait en réalité définir son identité profonde, ce serait bien celle de l'arrangeur, arrangeur star. Vous entendez ici, perdu un peu dans la foule, sa trompette et ses arrangements, car oui, c'est l'arrangeur de ce disque et de ce morceau. C'est le jeune, tout jeune Quincy Jones, alias Q. Quincy, cet Américain né d'un père charpentier, d'une mère qui souffre de maladie mentale. Quincy Jones, c'est comme beaucoup d'arrangeurs aujourd'hui qu'on entendra et qu'on avait déjà entendu, un autodidacte absolu qui apprend le piano et la trompette quasiment tout seul, alors qu'il est livré à lui-même, qui fait ses gammes avec un autre tout jeune, grand artiste de jazz, Ray Charles, son aîné de 3 ans, qui va l'aider, l'initier, avec qui il va peaufiner son talent qu'on qualifie d'explosif, qui va se faire engager dans divers orchestres de jazz, de big band, comme trompettiste et déjà comme arrangeur, c'est-à-dire qu'à l'oreille, puis à la partition, puisqu'entre-temps il gagne une petite formation à Berkeley, il se saisit d'une ligne mélodique et va la distribuer entre différents instruments du big band dans la plus pure tradition de l'arrangement de jazz dont on a largement parlé dans notre premier épisode. Mais Quincy Jones va devenir l'arrangeur, on va dire même le producteur, l'inventeur du son du XXe siècle. Et s'il a pu devenir cela, c'est parce qu'il en avait l'ambition et parce que l'été où il enregistre ce disque qu'on vient d'écouter avec Dizzy Gillespie, avec qui il a eu une grande tournée, il vient de rencontrer Lalo Schifrin, musicien argentin, passé de la musique populaire à la musique savante, grâce à une femme dont Lalo Schifrin lui parle, qu'on adore ici dans la série musicale, la grande, l'immense Nadia Boulanger, professeure de musique, professeur de contrepoint, dont, pour une raison qu'il ignorait, le tout jeune Quincy va devenir absolument obsédé. Et en ce début, ce milieu des années 50, Quincy Jones va être débauché des États-Unis par un Eddie Barclay, pape de l'industrie du disque en France, pour devenir son arrangeur et orchestrateur. Si Quincy Jones accepte et qu'il va se retrouver à arranger les tubes de Charles Aznavour, qui devient son grand ami, mais aussi de Nana Mouskouri, eh bien c'est aussi parce qu'il peut recevoir dans le même temps l'enseignement de cette professeure adulée qui va lui apprendre tout, qui le prend chez elle malgré son manque de formation. Alors même si on l'a entendu, quand il arrive, en tant qu'élève de Nadia Boulanger, Quincy Jones est en fait déjà officiellement arrangeur de jazz depuis plus de 15 ans. Pour lui, tout a commencé avec elle. Il considère que son premier arrangement est né là, en même temps que sa véritable identité musicale.
The first arrangement was... Oh, wow. I think it was something called...
Oui, je m'en souviens. La première fois que j'ai écrit des arrangements, c'était quelque chose qui s'appelait Nocturne in Blue, que j'avais écrit pour l'école. Nous avions avant un petit groupe avec Blackwell, pour lequel j'écrivais tout le temps. Mais je pense que la première chose que j'ai vraiment faite pour orchestre, c'était Nocturne in Blue. Je n'avais pas fait d'études à cette époque et je ne comprenais pas ce qu'étaient les indications de clés et tout le reste. Et je me souviens que je faisais quelque chose d'idiot, mais qui faisait l'affaire. J'écrivais une longue note au-dessus de la partition de trompette avec une petite astérisque qui disait « Veuillez jouer tous les si un demi-ton plus bas » car si vous les jouez naturels, ça sonnera bizarrement. Quelqu'un m'a dit, idiot, il te suffit de mettre un bémol sur la troisième ligne, c'est en clé de fa. Mais je ne savais pas ça à l'époque. À cette époque, j'avais l'habitude de dire que les musiciens de jazz, et particulièrement ceux qui venaient du ghetto, vivait en ménage avec la musique, avant de la comprendre. C'est exactement ce qui se passait. On se lançait, on la jouait, et tout le reste, on se débrouillait pour le faire bien. Mais je n'aurais pas pu continuer à progresser si je n'avais pas étudié l'harmonie, le contrepoint, la composition, tout ça. L'analyse musicale, Ravel, Stravinsky, tous les grands, Wozzeck, Loulou, Alban Berg. J'étais déjà dans le jazz, mais je voulais tout connaître. Nadia Boulanger disait qu'il n'y avait que 12 notes et que tant qu'on n'en trouverait pas une 13e, il fallait connaître ce que tous les autres en avaient fait. Que ce soit Duke Ellington, Mozart, Palestrino ou le chant grégorien. Elle était vraiment différente.
Sur un disque qu'on adore de Sarah Vaughan, Vaughan and the Violins. En ce titre, I'm Lost, trop peu connu à mon goût. Ça, c'est un Quincy Jones qui est déjà passé par l'enseignement de Nadia Boulanger. Donc Nadia Boulanger qu'on célèbre tout ce mois à la Maison de la Radio. Et vous allez voir, effectivement, qu'on a raison de la célébrer. Quincy Jones, qui l'expliquait, ses premiers arrangements étaient évidemment tripatouillés avec ses connaissances de musicien de jazz. Et véritablement, l'enseignement de l'harmonie et du contrepoint, ainsi que l'élargissement considérable de sa culture musicale après ses 2 ans à Paris, vont largement contribuer à enrichir sa palette, une palette qui est inarrêtable et dont il serait impossible ici de rendre compte. Une palette évidemment qu'il utilise en tant qu'arrangeur. Une fois revenu aux États-Unis à la fin des années 50, il devient le grand arrangeur de Big Band, mais pas uniquement. On le repère chez Mercury Records, où il est évidemment à la manœuvre sur les grands disques de jazz, mais pas que. On lui confie les nouvelles étoiles montantes et c'est à lui qu'on doit notamment un des immenses succès du label Mercury en 63, un succès qui inaugure finalement une nouvelle ère, celui d'une toute jeune chanteuse. Elle a 16 ans, elle s'appelle Leslie Gore et elle va triompher dans un titre qui encore aujourd'hui reste repris et énormément samplé. C'est l'une d'ailleurs des caractéristiques de la plupart des arrangeurs qu'on va entendre aujourd'hui. Leur musique, leurs arrangements prédominent et résistent au temps. It's my party. It's my party.
Why?
Summer in the City, on est dans les 70, et ça, c'est la carrière solo de Quincy Jones. Quincy Jones, l'arrangeur star, celui qu'on va appeler à la fois arrangeur et producer, le thème revient en fait alternativement. Comment Quincy Jones a réussi à s'imposer? Alors évidemment parce qu'il était lui aussi compositeur, ce qui, comme pour un homme comme Ennio Morricone par exemple, va profondément contribuer à asseoir sa réputation, à faire que l'on sait qui arrange et qui produit. Un succès comme celui de Leslie Gore aussi le montre. Ce qui fait la patte de Quincy Jones, c'est d'une part son éclectisme, sa immense capacité à changer de registre, à accompagner les temps qui changent. On l'entend, Leslie Gore, cette chanson qui devient d'une certaine manière le grand emblème de la rupture amoureuse adolescente, tant et si bien qu'on la trouve encore aujourd'hui très présente sur Instagram ou TikTok par exemple. Cette grande qualité de Quincy Jones, c'est celle de s'adapter à la fois aux interprètes, aux temps qui changent, et d'imposer sa version contre celle d'autres. Par exemple, dans le cas de It's My Party, ça a été vraiment une bataille. Quincy Jones avait trouvé cette chanson dans l'un des répertoires des musiques des grands staff de songwriters. En l'occurrence, c'est une chanson qui est produite, écrite par Aaron Schroeder. C'est une firme où plusieurs songwriters écrivent et ensuite montrent ce qu'ils ont au catalogue. Tout se joue en réalité dans l'arrangement. Cette chanson-là, Jones l'avait choisie avec une jeune Leslie Gore de 16 ans. Il avait fait effectivement ces choix d'arrangement très particuliers, des sons plutôt latins derrière la mélodie principale, le fait de doubler la piste vocale, ce qui donne plus d'épaisseur et un côté un peu tragique finalement à cette chanson qui est à la fois gay mais qui raconte évidemment un chagrin d'amour, et d'autre part une forte présence des cuivres. Oui, donc cette chanson était prévue, sauf qu'au moment de lancer le disque, Quincy Jones apprend que de son côté, l'autre grand producteur star, à savoir Phil Spector, a aussi des vues sur cette chanson avec un arrangement complètement différent. Lui a prévu de les faire chanter à son groupe de prédilection à l'époque, The Crystals. Il sait, Quincy Jones, à ce moment-là, qu'une autre version est en préparation. Et donc, un mois avant la date prévue de la sortie pour ce disque de Leslie Gore, il va rentrer chez lui, en une nuit peaufiner sa version et l'envoyer à toutes les radios avant que celle de Phil Spector ne puisse sortir. Cette version-là, on ne l'entendra jamais puisque Leslie Gore avait évidemment déjà gagné la manche grâce à l'opiniâtreté et la célérité de Quincy Jones. Quincy Jones qui, en 1974, va subir un anévrisme qui va presque lui coûter la vie. C'est presque la fin pour lui, d'autant plus qu'il a déjà été très présent pendant plus d'une vingtaine d'années. Mais il va prouver qu'il sait prendre le train en marche, évidemment. C'est lui, et on le sait, qui accompagne celui qui va devenir l'une des plus grandes stars de la musique du XXe siècle vers une forme d'autonomie, Michael Jackson, qu'il rencontre sur un film The With, dont il assure la direction musicale. Michael Jackson qui, à l'époque, quitte à la fois son groupe de début, les Jackson 5, et la Motown. Ça devient Off The Wall, et ça devient ça. You make me feel like...
Just rising up.
Don't Stop Till You Get Enough, le titre d'ouverture d'un album Off the Wall qui va faire de Michael Jackson la star qu'il est devenu, c'est-à-dire une personne à part entière, hors des Jacksons, qui était son groupe précédent, hors des Jacksons 5, qui était évidemment la matrice de ses origines. On peut dire qu'on doit à cet album superbement arrangé, hein, qui va de ce tube, Don't Stop Till You Get Enough, dans lequel se mêlent allègrement la pop, la funk et la soul avec cette ritournelle aux cordes qui ne cesse de tourner. D'autres titres beaucoup plus dépouillés avec la voix très frêle de Michael Jackson, une voix qui s'affirme au premier plan et les arrangements orchestraux sublimes de Quincy Jones qui vont faire d'Off the Wall un album qui est encore considéré par les critiques comme son meilleur, peut-être avant même Thriller, l'album suivant qui a été lui aussi évidemment orchestré par Quincy Jones qui a donc mis sur une rampe de lancement à Michael Jackson qui ensuite va travailler avec d'autres arrangeurs. Pour un peu moins de bonheur, on trouvera de ce côté-là du micro. Vous l'avez entendu donc, Quincy Jones, arrangeur, producteur, en concurrence avec d'autres producteurs, évidemment, le grand maître de la période, celui dont on parle encore beaucoup, qui impressionne tant par ses succès, sa vision, que son look inénarrable, ses fameuses lunettes noires et sa maigreur maladive. J'ai nommé évidemment Phil Spector, dont on ne cesse de parler quand on évoque évidemment le mur du son, ses innovations, ce son nouveau que tous ensuite ont cherché à copier. Le mur du son, est-ce que c'est vraiment à Phil Spector qu'on le doit ? Dans l'idée, oui, mais de manière concrète, Phil Spector n'avait ni les connaissances techniques ni les connaissances musicales pour mettre en œuvre sa vision. Et il faut rendre hommage ici aux arrangeurs nombreux avec qui il a travaillé. Parmi eux, il est un génie injustement méconnu. Il s'appelle Jack Nitzsch. C'est lui qui permet, en fait, par ses arrangements, de mettre en œuvre ce fameux mur du son. On l'entend très bien ici, dans l'une des chansons les plus emblématiques de cette technique, de ce son. C'est Ike et Tina Turner, River Deep, Mountain High. When I was a little girl, I love you for your mind. River Deep Mountain High, ça marche toujours extraordinairement bien. Ike et Tina Turner dans la version Phil Spector. Ensuite, Ike enregistrera une autre version lors de sa séparation avec sa femme. Et dans cette version-là, si vous l'écoutez en stéréo, au casque ou dans votre salon, vous entendez bien la manière dont la vision de Phil Spector, celle du mur du son, a été travaillée ici. C'est le double travail de l'arrangeur et de l'ingénieur du son. L'ingénieur du son s'appelle Larry Levine et l'arrangeur s'appelle donc Jack Nitzsche. On l'appelait à l'époque le Spex, tant il est copiait en fait la tenue de son mentor Phil Spector. Tous deux portent des lunettes noires, ils prennent à peu près les mêmes drogues, traînent dans les mêmes endroits, et c'est véritablement lui qui va mettre en œuvre la vision de Phil Spector avec cet arrangement où vous l'entendez des cordes très très orchestrales sur la droite et des cuivres extrêmement bas sur la gauche, avec la voix de Tina Turner qui semble soutenue par un mur de briques sonores construit donc par l'ingé son et l'arrangeur, même si tout le mérite en reviendra souvent à Phil Spector. C'est le lot des arrangeurs. Quelqu'un comme Jack Nitzsche, par exemple, sera toujours un grand dépressif, pleurant sur le fait qu'on ne reconnaît pas suffisamment son talent. Talent qu'il met en œuvre aussi lorsqu'il collabore avec les Rolling Stones, où cette fois-ci, il fait plutôt office de pianiste, car c'est son instrument de prédilection. On n'y reviendra pas ici, car il procède plutôt comme instrumentiste. On le retrouve sur différents albums des Stones, où il joue ce qu'on appelle le Nitzschephone, c'est-à-dire un piano trafiqué. Son travail d'arrangeur, on le retrouve dans son génie et aussi dans sa grande importance dans une œuvre qui va véritablement marquer les années 70. C'est son travail avec Neil Young. Neil Young qui, au fur et à mesure de sa quête musicale, se veut de plus en plus baroque et qui va concevoir avec Jack Nitzsche un de ses albums les plus impressionnants, les plus importants, c'est Harvest. Jack Nitzsche est aussi à la composition et on l'entend vraiment ici dans le très baroque A Man Needs a Maid. On est en 1972, c'est le début d'une très longue collaboration entre les deux hommes. Écoutez.
While ago, somewhere, I don't know when.
L'arrangement magistral de Jack Nitzsche dans ce Man Needs a Maid, c'est son piano que vous entendez derrière la voix de Neil Young et ses orchestrations assez splendides, l'arrivée à plus d'une minute trente hein, de musique dans cet accompagnement qui était très sobre, dépouillé plutôt folk, de cordes et puis évidemment de carillon qui donne une toute autre ampleur à la musique très folk du guitariste. Une très grande collaboration, très longue, avec des relations très complexes aussi entre Neil Young et Jack Nitzsche qui vont continuer à travailler ensemble quasiment jusqu'à la fin de leur vie sur plus de 30 ans. Mais une relation de travail à la fois pleine de respect mais émaillée d'immenses disputes. Lorsqu'il est ivre, Jack Nitzsche donne des interviews dans lesquelles il descend Neil Young. Neil Young qui le vire à plusieurs reprises des tournées parce qu'il est ingérable, parce qu'il boit trop. Mais qui néanmoins, à la mort de Jack Nitzsche, ne cessera de saluer sa mémoire. Je ne sais jamais trop comment approcher les arrangeurs. Ils ont toujours l'air de faire partie des deux camps. À la fois, ce sont des musiciens, mais ce ne sont pas que des musiciens. Ce sont des maîtres de la musique. Ils organisent ce que font les musiciens. Ils m'ont aidé, en l'occurrence, à devenir un géant. Un homme comme Jack Nitzsche et tant d'autres sont de véritables génies et ils n'ont jamais la reconnaissance qu'ils méritent, disait Neil Young au début des années 2000, comme pour finalement rendre à César ce qui était à César. Jack Nitzsche aussi longtemps éclipsé hein, par la figure de Phil Spector, on l'a entendu, Phil Spector qui a beaucoup travaillé avec lui, évidemment, avec son ingé son, on l'a dit, Larry Levine, pour arriver au mur du son. Ce qu'on oublie aussi parfois, c'est que dans les mythiques studios de Spector à Los Angeles, il y avait aussi des musiciens de studio. C'est eux qui, d'une certaine manière, interprétaient les partitions qui avaient été écrites puis arrangées par d'autres. Ces musiciens de studio, ils ont longtemps, eux aussi, vécu dans l'ombre et pourtant, ils ont été fondamentaux dans l'énorme succès de Phil Spector. On a fini par les identifier. On vous conseille un magnifique documentaire dédié à rendre justice à leur génie. On les appelait The Wrecking Crews. Wrecking Crews, c'était un groupe informel de musiciens de très très haut niveau. La plupart d'entre eux étaient formés au jazz ou à la musique classique. Parmi les plus importants, Glenn Campbell, Bernie Kassel, qui étaient des guitaristes au saxophone, des hommes comme Steve Douglas, et surtout leur chef d'orchestre, leur arrangeur, c'était évidemment Jack Nitzsche. Parmi ces musiciens de studio, il y avait aussi un autre guitariste du Wrecking Crew, il s'appelle Billy Strange, lui aussi est devenu arrangeur, on lui doit de très très grands succès. Ici, par exemple, il est compositeur et arrangeur, même si évidemment la star, c'est Elvis.
Conversation, a little more action, please. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less spark. A little less fight, a little more spark. And close your mouth and open up your heart. And baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Baby, close your eyes and listen to the music. And dig to the summer breeze. It's a groovy night and I can show you how to use it. And come along with me and put your mind at ease. Hey, a little less conversation, a little more action, please. All this aggravation and satisfaction in me. A little more fight, a little less spark. A little less fight, a little more spark. Shut your mouth and open up your heart. And it'll satisfy me. Satisfy me, baby. Come on, baby, I'm tired of talking. Grab your coat and let's start walking. Come on, come on.
Come on, come on.
Come on, come on.
Come on, come on.
Don't procrastinate, don't articulate, girl, it's getting late, you just sit and wait around. A little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less spark. A little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart, and baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Satisfy me, baby. Satisfy me, baby.
I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me.
And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. Though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red, and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red, and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
Billy Strange, compositeur de A Little Conversation, tube de Elvis, mais aussi musicien de studio pour Phil Spector et évidemment arrangeur ici pour Nancy Sinatra et son père Frank dans cette version de Something Stupid Like I Love You, qui était en réalité une chanson qui était sortie l'année précédente, interprétée par un couple de chanteurs de country, chanson qu'il réarrange avec cette très belle guitare presque mandolinesque et une grande nappe orchestrale qui traverse la chanson. Car oui, Billy Strange fut donc guitariste, mais aussi compositeur et arrangeur de quasiment tous les grands tubes de Nancy Sinatra, notamment Bang Bang, These Boots Are Made For Walking, tube qui était donc arrangé par lui, mais produit par un autre musicien mythique, Lee Hazlewood. Lee Hazlewood qui, lui, arrangeait quasiment toutes ses chansons lui-même, sauf quelques petits chefs-d'œuvre qu'il avait confiés à son ami Billy Strange, par exemple ce très court mais délicieux My Autumn's Done Come.
Kiss all the pretty ones goodbye. Give everyone a penny that cries. You can throw all my tranquil pills away. Let my blood pressure go on its way. 'Cause my autumn's done come. My autumn's done come. Done come. Let those I don't care days begin. I'm tired of holding my stomach in. No more slinky folk dolls for me. I'll take Sears and Roebuck dolls gladly. 'Cause my autumn's done come. My autumn done come, done come.
Lee Hazelwood et Billy Strange, ces arrangements qui donnent à My Hutton's Done Come son air alangui des cordes qui s'étirent dans les aigus très longuement. Le génie de Lee Hazelwood. On a vu donc le cas de l'arrangeur devenu producteur et resté arrangeur, c'est l'inénarrable Quincy Jones. On a vu aussi le cas du producteur qui n'a pu réussir finalement que grâce au génie de ses arrangeurs, c'était Phil Spector, grâce au génie de Jack Nitzsche et de Billy Strange. Passons évidemment à l'un des cas les plus emblématiques de l'histoire de la pop, le cas du cinquième Beatles, George Martin, producteur des Beatles, qui fut évidemment non seulement leur collaborateur, mais peut-être l'inventeur de leur son. Écoutons cette archive où il raconte son tout premier succès avec les Beatles. C'était « Please, Please Me », une chanson en apparence simple, mais où l'arrangement a joué un très grand rôle.
The very first record was Love Me Do.
Le premier disque que nous avons enregistré était Love Me Do. C'était bien, mais ce ne fut pas un gros succès. Et j'étais déterminé à enregistrer un gros succès. J'en ai trouvé un. Je l'ai montré aux Beatles. Je leur ai demandé de l'apprendre. Ce qu'ils ont fait, ils l'ont enregistré. Mais ils ne l'ont pas aimé parce qu'ils ne l'avaient pas écrit. Ils m'ont dit, mais est-ce qu'on ne peut pas avoir notre propre chanson ? J'ai dit, bon, d'accord, mais qu'est-ce que vous avez ? Ils m'ont dit, tu te souviens de Please, Please Me ? Je m'en souvenais car nous l'avions enregistré avant Love Me Do. Mais c'était très lent, un peu dans le style des chansons de Roy Orbison. Un peu triste aussi. J'avais dit à ce moment que c'était trop lent, qu'il fallait l'accélérer. Alors ils ont suivi mon conseil, ils l'ont accéléré et puis rajouté quelques éléments ici ou là. Ils me l'ont joué et j'étais très impressionné. Alors nous l'avons enregistré. Et à la fin de la séance, je leur ai dit, messieurs, vous tenez votre premier gros succès.
George Martin, vous l'avez entendu, c'est lui qui a l'idée d'accélérer. Évidemment, ce titre, c'est aussi lui qui a l'idée de l'harmonica, même s'il ne le dit pas. George Martin, encore un autodidacte qui s'est formé tout seul au piano en apprenant Rachmaninoff à ses 6 ans, qui ensuite obtient une bourse pour étudier la musique, qui devient très jeune un patron de label parlophone où il va enregistrer essentiellement pendant ses premières années de la musique classique et du baroque. C'est cette formation très classique et pourtant autodidacte qui va lui donner cette souplesse et ce génie dans la production des Beatles lorsqu'il meurt il y a quelques temps. On parle de la mort du père des producteurs, George Martin, qui en réalité va véritablement aider à construire le son des Beatles. On a du mal aussi aujourd'hui à imaginer à quel point il a été instrumental au sens propre du terme. À partir de Revolver, il met vraiment la main à la pâte. Non seulement il arrange, mais parfois il joue lui-même. C'est à lui qu'on doit, évidemment on le sait, l'idée du quatuor à cordes sur Eleanor Rigby. Sur le titre Penny Lane, c'est à lui qui va écrire littéralement la partition de la trompette qui va faire de cette chanson tout ce qu'elle est, qui avait été sifflotée par Paul McCartney. Sur Strawberry Fields Forever, c'est lui qui va avoir l'idée de fondre deux prises de son en un unique master pour donner son son complètement LSD à cette chanson. Autre intervention, par exemple, sur I Am The Walrus, où il essaye de traduire les indications de l'un de ces merveilleux Beatles.
John was never as articulate as Paul.
John ne s'exprimait pas aussi bien que Paul quand il me donnait ses idées musicales. Il employait des termes généraux au sujet de l'ambiance qu'on devait trouver orange, par exemple. Pour I Am the Walrus, il dit qu'il voulait des violoncelles et des cuivres. J'ai dit qu'on devait aussi utiliser un chœur. Alors quand j'ai écrit les partitions, des violoncelles, des cuivres, j'ai aussi écrit un chœur. Et pour plaire à John, je l'ai écrit de façon assez étrange, un peu folle. Il a adoré cela. Et le chœur était composé de 8 chanteurs réunis sous le nom de Michael Sam Singers. Ils étaient des musiciens très stricts, pas du tout rock'n'roll. Ils étaient plutôt âgés, comparés à John. Et il fut un peu effrayé quand il les a vus. Mais ce qui était bien, c'est qu'ils étaient capables de lire la musique très bien. Et j'avais écrit cette partition pour eux, avec tous les rires, les « ah », les bruits. C'était dans la partition. Et quand John a entendu ça, il éclatait de rire.
Expert, joking smokers, don't you think the joker?
Les hi 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 oh 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 et I am the old walrus. C'était écrite à la partition par George Martin. George Martin, donc ce producteur qui, à partir de Revolver avec Gourmandise, va arranger les chansons des Beatles et va d'une certaine manière inventer la pop et l'idée même de disque, d'album concept. George Martin, vous l'avez entendu, hein, qui faisait ce vrai travail d'arrangement, traduire les intentions artistiques de John, la couleur orange, dans une partition extrêmement précise où tous les sons se mêlent. George Martin, qui après la séparation des Beatles d'ailleurs, ne revendiquera jamais beaucoup d'autres honneurs, il ne tentera plus de carrière de producteur et se limitera à son métier premier, l'arrangement. C'est la fin de cette série musicale. Toujours beau de se quitter sur les Beatles. N'hésitez pas évidemment à la podcaster. Vous la retrouvez sur le site de France Culture et sur l'application de Radio France. Cette émission a été préparée avec le concours de Lou Quevauvillier et de la discothèque musicale de Radio France qu'on salue ici. Elle a été mise en onde par Léo Chaban et réalisée par Emmanuel Benito.